C'est donc le temps des vacances. Qu'allez-vous faire de votre portable, de vos tablettes? Réussirez-vous à oublier votre travail, le bureau, les dossiers en cours ou à venir en vous déconnectant? Réussirez-vous à ne pas être esclave de l'hyperconnectivité, ce besoin, voire cette obligation de rester connecté en permanence pour ne pas rater une information concernant votre emploi? Le droit à la déconnexion figure dans la loi travail. Problème, elle n'est pas contraignante, cette loi, on va y revenir au cours de l'émission. Ce soir, nous essayons de comprendre le fonctionnement de la frontière entre vie privée et vie professionnelle pour éviter l'asservissement au numérique. Nous attendons vos questions, vos remarques, vos témoignages. Cette émission, c'est la vôtre, c'est le téléphone sonne et je vous présente nos invités qui vont vous répondre. Patrick Thiébard, avocat spécialiste en droit du travail et en droit social au cabinet Janté. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique Bouillet, vous êtes sociologue, spécialiste du numérique, enseignant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Bienvenue,
bonsoir.
Et enfin, notre troisième invité, c'est Jean Pralon, qui est psychologue, chercheur en gestion des ressources humaines, titulaire de la chaire Intelligence en ressources humaines et responsabilité sociale des entreprises à l'Institut de gestion sociale à Paris. Bonsoir Jean Pralon.
Bonsoir.
On va au standard dans quelques secondes.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Premier appel, et merci d'être avec nous, Francis, à Sainte. Bonsoir, Francis.
Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je peux penser que j'ai de la chance, en fait. Moi, j'évolue pas avec mon temps. Je suis en parallèle aussi, de pied, en fait. J'ai un petit téléphone portable avec lequel je vous parle actuellement, à 20 euros à peine. J'ai un vieil ordinateur, obligé, malheureusement, de faire mes déclarations par Internet. Au niveau du boulot, très peu de connexions, donc j'ai de la chance. Mais quand même, ça m'interpelle. Je me pose une question. Ne pas pouvoir, ou plutôt se poser la question, comment je vais faire pour ne pas me connecter pendant mes vacances. Moi, pour moi, c'est une aberration. Je me dis, mais alors ces gens-là, ils sont soit, je vais pas être gentil, méchants, ou alors en addiction absolue, quoi. Voilà ma question.
Et vous, pendant les vacances, alors là, vous réussissez à déconnecter absolument. Complètement, pas de problème?
Ah oui, absolument, on m'appelle pas pendant 15 jours, ça me dérange pas. Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
Bien, alors qui veut réagir à ce premier témoignage de Francis qui fait allusion, c'est vrai, à une véritable addiction au numérique? On peut comparer cela à une sorte de drogue. Et lorsqu'on n'a plus son portable, ses tablettes, lorsqu'on se déconnecte, on est comme en manque. Jean Pralon?
Oui, alors la première remarque que je peux faire, c'est que l'année dernière, effectivement, on a vu apparaître le premier été déconnecté. C'était le premier été où les accords commençaient à intervenir et donc on imaginait des cadres qui allaient passer leurs 3 semaines de mois d'août sans connexion avec leur entreprise.
Quand vous parlez des accords, vous évoquez cet article de la loi El Khomri qui prévoit le droit à la déconnexion.
Oui, alors plus précisément, le fait que ces accords, cet article de la loi El Khomri a été transformé en accord dans les entreprises, donc les entreprises ont promulgué leurs propres règles. Et l'été dernier, effectivement, on a vu apparaître des cadres qui sont partis en vacances 3 semaines, déconnectés, sans avoir la possibilité de savoir ce qui se passait dans leurs entreprises en leur absence. Et on imagine leur stress de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines? Est-ce que mon patron a été viré? Est-ce que mes collègues ont été virés? Est-ce que j'ai été remplacé par quelqu'un? Est-ce que mon gros contrat, effectivement, a été signé? Ou est-ce que, finalement, mon principal client m'a quitté? Et ce stress-là, finalement, on ne l'imaginait pas avant. On imaginait que c'était la connexion qui générait du stress. Et on découvre que c'est l'absence de connexion qui, elle aussi, génère du stress. Donc l'infobésité, finalement, rend boulimique d'informations. C'est assez paradoxal.
Et comment on s'en sort?
Alors justement, il faut réguler les choses. Mais réguler les choses, ça fait appel à de la compétence chez les salariés et pas à de l'interdiction brutale. Il faut éduquer les salariés à traiter de l'information, à savoir quand on va chercher l'information, quand on y répond, quand on n'y répond pas. Et aussi à éduquer les managers à tolérer que leurs collaborateurs ne répondent pas immédiatement à l'information.
Et est-ce que les managers ont bien compris cela? Est-ce qu'ils sont nombreux à appliquer ce que vous venez de dire?
Alors je crois qu'il y a deux choses. Les managers ont une pression économique, donc ils ont des choses à faire, des comptes à rendre, des contrats à signer. Et puis, plus important et plus difficile, ils sont soumis à une norme qui est très française, qui est celle du présentéisme. C'est qu'on aime bien être là, on aime bien montrer qu'on est engagé dans son entreprise en faisant preuve de présentéisme et en étant peut-être surprésent ou surimpliqué, alors que les besoins économiques seraient finalement beaucoup plus modestes.
Voilà, c'était Jean Pralon, je rappelle, psychologue et chercheur en gestion des ressources humaines. Patrick Thiébard, avocat spécialiste en droit du travail, vous voulez intervenir?
Oui, merci beaucoup. En fait, le droit à la déconnexion, c'est le droit qu'a le salarié durant son temps de repos de ne pas être connecté à ses outils tels le téléphone portable et autres. Ouais. Mais ce n'est qu'un droit. C'est-à-dire que le salarié peut parfaitement, même durant son temps de travail, rester connecté. Il y a un droit et il y a une obligation. L'obligation, c'est que l'employeur, lui, comme le rappelait effectivement notre intervenant, a l'obligation de mettre en place des règles. Bon, mais on n'a jamais interdit à un employeur et à un salarié de continuer, je dirais, à échanger durant leur temps de repos. On veut simplement éviter effectivement cette avalanche d'emails durant les temps de congé. C'est surtout ça le point.
Elisabeth à Nantes. Bonsoir Elisabeth, merci de nous écouter, de participer à notre émission.
Bonsoir à tous.
On vous écoute.
En fait, moi je voulais justement témoigner du fait que j'aime bien ma liberté et que quand je pars faire des courses, quand je vais dans un café, ça va durer 2, 3 heures, 4 heures, je ne prends pas mon téléphone portable. Et c'est très très mal pris par les personnes qui souhaitent me joindre et qui ensuite me disent « Mais un téléphone portable, c'est justement pour qu'on puisse taper tout le temps, que tu sois joignable tout le temps. » Ce n'est pas compris. Et deux fois, certains très très proches ont eu l'idée d'appeler les pompiers. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais ils m'ont dit, on était vraiment mais à quelques minutes d'appeler les pompiers. Donc voilà, il y a le problème par rapport au travail, il y a aussi le problème par rapport à sa vie privée. Et voilà, c'est tout.
Alerte générale, donc, parce qu'on n'arrivait pas à vous joindre.
Exactement.
Dominique Bouillet, ce témoignage d'Elisabeth.
C'est assez significatif du fait qu'on est en réalité sous pression sociale, indépendamment des régulations ou pas. Malgré tout, on parlait tout à l'heure des managers, mais on parle aussi des collègues et on parle aussi des amis et de la conformité, disons, à une règle implicite que l'on se crée. Et cette pression-là, elle vous met en une situation où on considère normal d'avoir peur de rater quelque chose. Donc, et si tout le monde commence à vivre dans ce climat de peur, et l'auditeur précédent aussi le disait bien, lui, il vit très bien, donc il n'a pas de problème de rupture vis-à-vis des vacances, parce qu'en réalité, il a réussi à avoir, moi, ce que j'appelle plutôt une connexion lente, qui n'est pas une connexion lente au sens du débit, mais au sens de la fréquence et de la pression qu'elle exerce sur vous. Et à partir de ce moment-là, tous ces gens-là sont en réalité des indicateurs de la façon dont on pourrait se comporter autrement. Donc, ils doivent au contraire être capables de ne pas résister d'une certaine façon à cette pression intense des collègues, et parce que au bout d'un moment, on a un univers qui n'est plus vivable. Moi, je dis même qu'il n'est plus habitable quelquefois, parce que j'ai créé ce concept d'habitel. Comment est-ce qu'on arrive à habiter un monde numérique où le stress ne nous détruit pas, alors qu'on voit bien tous les avantages du numérique, c'est certain, mais on les retourne dans l'autre sens. Donc le collectif, c'est pas une affaire seulement de règles, c'est aussi une affaire de collectif et de collègues, disons, ou de voisins ou d'amis qui vont vous aider à le faire, cette transformation.
Dominique Bouillet, sociologue spécialiste du numérique, enseignant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Je vous soumets cette étude qui a été publiée l'année dernière à propos de ce lien entre le numérique et le travail. Une étude du cabinet Eleas révèle que 33% des actifs restent connectés pendant leurs vacances d'été et 27% ressentent un sentiment de culpabilité s'ils ne le font pas. Cette étude Eleas montre une connexion aux outils numériques pendant les vacances d'été plus élevées chez les cadres supérieurs. Ils sont 51% à rester branchés. Les professions intermédiaires, ils sont 36%. Et alors, chez les employés et les ouvriers, 22%. Que vous inspire cette étude, Patrick Thiébard ?
C'est la preuve qu'on est bien dans le monde de l'immédiateté et que systématiquement, on se sent contraint de répondre à tous les courriers électroniques qu'on reçoit. Je pense qu'il faut repartir un peu des règles de base. La règle de base, c'est l'organisation du travail. Lorsqu'un salarié part en vacances, et c'est quand même un droit, on a le droit au repos, on ne doit pas être embêté et perturbé par l'écho électronique. Donc, effectivement, tout ça se gère, et je dis qu'on ne peut gérer le droit à la déconnexion que si on a posé préalablement les règles de l'organisation du travail. C'est un point pour moi essentiel.
Mais cela étant, cette étude montre quand même que, par exemple, les cadres, les dirigeants, cadres supérieurs, sont très nombreux à rester connectés, ce qui n'est pas le cas des employés ou des ouvriers. On a reçu des courriels sur notre boîte mail. Imaginez-vous qu'un responsable d'une start-up puisse se déconnecter complètement durant les vacances. Selon moi, c'est impossible. Jean Pralon.
Oui, alors, depuis quelques années, il s'est passé un truc assez étonnant, c'est que les outils digitaux qu'on a tous chez nous sont beaucoup plus performants que ceux que les entreprises fournissent. Il y a 10 ans, avoir un ordinateur portable, c'était une rareté et c'était fourni par l'entreprise. Et puis, depuis quelques années, la tendance est inversée. On a tous des smartphones achetés avec notre argent à nous qui sont beaucoup plus performants que ceux que l'entreprise fournit. Et donc, la tentation est grande de faire fusionner les données qui arrivent sur tous ces mobiles. On a tous sur nos portables perso, nos mails professionnels, alors qu'on ne devrait pas, finalement. Et donc, le flux entrant est très important et il arrive jusqu'à la sphère privée par ce biais-là. Il faut aussi ajouter que c'est aussi un peu un élément de statut. On parlait des cadres sup à l'instant et c'est pas pour rien. C'est un peu un élément de statut de se dire un peu surbooké et poursuivi par son travail pendant les vacances. Et donc là aussi, c'est une question d'éducation des individus. Il faut aussi apprendre à mettre des limites et je ne suis pas sûr que ça ne relève que d'une question de règles et de limites imposées par l'entreprise. On parlait de collectif, et après j'aurais fini là-dessus, on parlait de collectif de travail à l'instant, c'est absolument fondamental, effectivement, de voir comment cette règle, ou ces règles-là, peuvent s'appliquer, non pas d'un point de vue individuel, d'en faire une affaire individuelle et d'application individuelle des règles, mais d'en faire quelque chose qui remet au centre de débat les collectifs de travail, et donc la capacité d'un collectif à s'organiser pour traiter l'information, pour traiter les absences, et pour traiter le travail en l'absence des uns et des autres.
Patrick Thiébart, vous évoquiez l'organisation en entreprise. Pour réussir cette déconnexion, on a des réactions d'auditeurs. Les entreprises ont-elles mis en place des systèmes qui permettent de déconnecter, c'est-à-dire fermeture des messageries électroniques le soir, désactivation une demi-heure avant la sortie du bureau, du renvoi des emails professionnels vers les smartphones, emails envoyés le week-end qui ne parviennent que le lundi matin. Est-ce que ça devient courant cela ?
Alors, je vous parle en tant que praticien du côté avocat entreprise. D'abord, les entreprises ont l'obligation de mettre en place, et vous savez que si, pour celles qui ont des syndicats, elles ne négocient pas, c'est un dit d'entrave. Dit d'entrave, c'est un an d'emprisonnement, c'est 7 500 € d'amende, c'est sérieux. Bon, donc il y a l'obligation, effectivement, dans le cadre de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, de négocier le droit à la déconnexion. Donc oui, elles le font. Vous dire qu'elles le font avec beaucoup d'inventivité, vous dire qu'elles le font en se posant leurs propres règles, ça reste encore effectivement à voir.
Dominique Bouillet.
Oui, ce qui est important quand vous évoquiez la question de la hiérarchie, c'est qu'effectivement les différentes personnes dans les différents statuts ne réagissent pas forcément de la même façon, mais on parle souvent dans les discussions de la théorie du ruissellement, mais je peux vous dire qu'il y a une chose qui ruisselle, c'est bien le stress. Et le stress, quand on l'a de très haut, et je dirais même jusqu'au niveau des actionnaires sur la pression sur les entreprises qui elles-mêmes se traduisent dans les dirigeants qui retranscrivent tout ça petit à petit, eh bien c'est quelque chose qui crée des climats détestables. Et c'est même si les personnes, elles, ne le ressentent pas forcément sous le biais du numérique, mais l'ambiance elle-même se diffuse comme cela. Donc c'est très important de ne pas forcément limiter la question d'ailleurs au numérique, mais de bien voir que l'ambiance stressante qui est générale dans les entreprises finit par affecter et à mobiliser ces outils-là au service de cela. Donc moi je dis souvent que le numérique, il amplifie ces phénomènes-là. Il n'en est pas la cause, mais il amplifie ces phénomènes-là. Donc il faut reprendre la discussion sur le management.
Antoine à Paris, témoignage ou question. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi, c'est pas tellement le droit à la déconnexion dont je voudrais parler, c'est le droit à utiliser la communication comme j'en ai envie. En fait, je n'ai pas de bureau et j'avais une adresse mail personnelle que j'utilise pour ma communication professionnelle. Et mon employeur vient de mettre en place une messagerie avec une adresse professionnelle et m'impose d'utiliser cette adresse-là. Ce qui me contraint dans mon travail, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser mon ordinateur, les copier-coller, etc. Voilà, je voudrais savoir s'il peut me contraindre, m'interdire d'utiliser mon adresse professionnelle, mais personnelle, pardon.
Réponse de Patrick Thiébart, avocat spécialiste en droit du travail et en droit social.
Oui, je pense qu'effectivement, l'employeur a, malheureusement pour vous, si je puis dire, ce droit, parce que, effectivement, d'abord, L'employeur, il est dans le code du travail celui qui organise le temps de travail, celui qui impulse le mouvement. Et on peut aussi bien comprendre que si on laisse chaque salarié avoir sa propre adresse électronique, ça peut provoquer des problèmes, y compris d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste, mais des problèmes de sécurité informatique. Donc je ne suis pas surpris.
Olivier est avec nous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à vous.
Vous êtes sur l'antenne en direct et on vous écoute.
Eh bien, merci de prendre ma question, mais partiellement, en écoutant les débats, je crois qu'on a un petit peu répondu à mon interrogation qui était suite aux premiers intervenants. Je me posais la question, justement, collectivement, puisqu'au départ, elle a été abordée sous l'angle individuel, et je me demande si collectivement, on peut aujourd'hui être déconnecté, puisque la société nous pousse à utiliser ces outils de plus en plus pour accéder aux moindres services. La première personne étant intervenue à l'antenne parlait de l'obligation aujourd'hui de déclarer ses impôts par Internet. Aujourd'hui, on veut acheter un billet de train. Alors hier, c'était les bornes connectées dans les gares. Maintenant, c'est le téléphone portable. Et petit à petit, la totalité des services qu'on trouve dans sa vie de citoyen, de consommateur, etc., se trouve être fournie via ces outils-là. Donc oui. Ma question, c'est est-ce qu'on va pas vers une... Comment est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, être déconnecté, puisque collectivement, on est poussé à tout le temps utiliser le numérique?
Oui, mais Olivier, est-ce que vous convenez quand même que toutes ces connexions que vous évoquez, c'est quand même bien pratique?
Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Non, mais justement, il faut pas être... il faut pas être... schizophrène n'est pas le mot, mais effectivement, toutes ces connexions sont bien pratiques. Après, bon, il y a la problématique d'être bombardé d'informations, la problématique aussi de savoir gérer l'accès à ces différents services individuellement. Mais comme la question et le débat étaient autour de aller vers une déconnexion, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, je peux vraiment être complètement déconnecté? Vu que la plupart des services sont proposés au travers de ces outils, il y a le problème de la fracture numérique aussi derrière ça.
Bien sûr.
Si je n'utilise pas ces outils, est-ce que je ne me mets pas de côté par rapport à un mouvement qui est un mouvement de fond, quoi?
En gros, c'est formidable. Le numérique, ça donne des possibilités infinies, mais il faut arriver à maîtriser cet instrument et savoir peut-être l'utiliser moins ou se couper du numérique pendant, là, on évoque bien ce soir cette période particulière, les vacances, où on est censé changer de rythme, être moins stressé. Sur ce témoignage d'Olivier, réaction de Jean Pralon qui est psychologue.
Alors, j'ai rien de particulier à ajouter. Je crois qu'effectivement, on peut finir par être low-tech dans sa vie personnelle, et c'est sûrement un mouvement de fond qui va finir par apparaître. Ça peut même être très à la mode chez certaines parties de la population. On peut donc être low-tech, c'est-à-dire dire qu'on a un vieux téléphone qui n'est pas, qui ne transmet pas de data, sur lequel on ne peut pas aller sur Internet, etc.
Technologie basse, je traduis un peu quand même.
Low-tech, technologie basse, c'est parfait. Mais le débat qu'on a ce soir, c'est aussi dans le monde professionnel. Est-ce qu'on peut être low-tech? Donc, est-ce que dans le monde professionnel, on peut se dispenser d'avoir un outil comme un smartphone qui va vous apporter de l'information pendant les vacances? Est-ce qu'on peut se dispenser d'avoir ça en permanence? C'est très difficile, ne serait-ce que parce que justement, il y a cette fusion dans le comportement de chacun d'entre nous entre ce qui relève de la sphère privée et de la sphère professionnelle, et que cette fusion, elle passe par le fait qu'on a les mêmes outils et que ça passe par le même smartphone ou le même ordinateur portable et que tout arrive au même endroit. Et c'est pour ça que, je répète, je crois que l'étape d'après, au-delà des accords d'entreprise, c'est d'apprendre aux salariés à gérer le stress qui est de recevoir de l'information et à gérer le stress qui est de ne pas recevoir d'information.
Voilà, et remarque d'auditeur sur le site, je vous la lis. Y a-t-il ceux qui savent gérer la multiplication des outils de communication et les sollicitations numériques, et puis ceux qui ne savent pas gérer cela et cet équilibre entre professionnel et personnel? Dominique Bouillet, sociologue, spécialiste du numérique.
Il est tout à fait vrai qu'il y a des capacités différentes, d'une part, des générations différentes, des éducations différentes, etc., et des savoir-faire, et que, de ce fait, les systèmes que l'on diffuse sont, malgré les tendances à la personnalisation, comme on dit, en réalité, sont quand même orientés tous ensemble pour capter systématiquement notre attention à haut régime et nous maintenir accros, hein, d'une certaine façon. Et donc, il faut bien le voir, du coup, ceux qui veulent s'en débarrasser, ils ont besoin, on parlait tout à l'heure du collectif, c'est-à-dire que ce soit dans une entreprise, que ce soit un collectif de travail qui s'organise et qui délibère pour dire comment on peut prendre en compte aussi les diversités des compétences, d'une part, et admettre que ça se régule pas seulement par la règle, par la loi, mais par la norme collective qu'on peut mettre en place, et puis surtout pour essayer justement de trouver des façons d'aider, parce que moi je travaille beaucoup sur les systèmes d'aide, qui sont des dispositifs ergonomiques qui comportent à la fois du coaching, à la fois des interfaces, à la fois de la documentation. Comment est-ce qu'on peut aider des gens dans des situations différentes, justement, à s'en sortir, y compris ceux qui ont du mal à se connecter, d'une part, et qui voudraient peut-être se connecter. C'est le paradoxe, on va revenir sur cette question-là, mais et dans l'autre sens, pour aider chacun à inventer sa façon de réguler cela. Et là, et comment, chacun alors, ne peut pas le faire.
Donnez-nous quelques conseils pour réguler son addiction actuellement,
le problème principal, quand on pose les problèmes de déconnexion, on a tendance à les poser en termes binaires, c'est-à-dire c'est les vacances et on arrête. Ouais. Ou carrément, tout à l'heure, on disait, on fait effectivement du low-tech, on ne se connecte pas du tout. En réalité, ce qui est important, c'est de réguler durablement un équilibre et de le trouver. Et il est différent selon les personnes, selon les situations, etc. Et donc là, je pense que le problème, il est plutôt un problème de rythme, de haute fréquence et de capacité déjà à différer tout un tas de choses. Donc ça veut dire ralentir un certain nombre de choses. C'est-à-dire, et alors là, il y a, soit on est capable de le faire soi-même, soit il y a des entreprises qui proposent maintenant des services pour vous déconnecter, pour réguler, pour filtrer et pour ralentir votre tendance à réagir. Dès qu'on retweet, non seulement on a une satisfaction parce qu'on est actif et puis on réagit, mais on met sur les autres une pression parce qu'on renvoie de l'information. Et à chaque fois, c'est comme cela. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes les agents de cette pression qu'on a du mal à supporter. Donc on doit petit à petit apprendre, mais ça se fait souvent, soit collectivement, soit avec quelques règles qui consistent à dire « je m'interdis de retweeter plus d'une fois par jour, par exemple, je prends un exemple tout bête », et à ce moment-là, je peux vous dire que le rythme, c'est ça qui est la pression difficile à supporter, le rythme va tomber, et à ce moment-là, ça peut redevenir vivable.
Voilà, Dominique Bouillet, je rappelle, vous avez publié aux éditions Armand Collin « Sociologie du numérique » en 2016. Pierre est avec nous, bonsoir Pierre.
Allô, oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Très bien, on écoute votre question.
Oui, une toute petite remarque au passage. Vous savez, moi, mon numéro de smartphone est ultra confidentiel. Et là, je vous appelle sur un vieux Nokia GSM.
Oui.
C'est le seul dont le numéro soit public.
Très bien.
Blague à part. Non, moi, je vous appelais parce que je m'étonne qu'on n'utilise pas plus souvent une solution qui a été négociée, d'ailleurs, au plus haut niveau, dans une très, très grosse entreprise allemande, en l'occurrence, un grand constructeur automobile. Et l'idée est assez simple, en fait. C'est un droit pour le salarié qui consiste à autoriser à ce que les mails qui lui parviennent pendant ses vacances soient tout simplement détruits automatiquement par le système d'information d'entreprise. Alors évidemment, il y a une contrepartie, c'est que l'employé doit donner le nom d'une personne en cas d'urgence. L'émetteur du mail, évidemment, est informé de sa destruction et est invité à rappeler le salarié après son trou de congé à telle date. Je trouve que cette solution est vraiment remarquable. Elle est germanique, elle est assez simple, pratico-pratique. Et je suis étonné que ça soit un peu plus souvent employé.
Patrick Thiebard.
Oui, enfin, il y a des solutions comme ça. Il y a aussi la solution qui consiste à couper le serveur à une certaine heure, le soir. Ouais. Je suis pas certain que ça aide vraiment, parce qu'au bout du compte, ça fait pas vraiment baisser pour moi l'infobésité. Je n'ai pas le sentiment que ça la fasse baisser. Non, je pense que les solutions, c'est plutôt celles qui étaient préconisées par Dominique Bouillet, c'est-à-dire une régulation, au sein de l'entreprise, et je ne crois pas tellement à la notion de destruction comme ça, des emails qui vont revenir de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc,
Jean Pralon.
Alors, je crois savoir que cette initiative allemande a été interrompue, mais c'est à vérifier. Ce que j'ai vu de plus malin sur le sujet il y a peu de temps, c'est une start-up qui propose à l'émetteur d'un mail de signaler quel est le degré d'urgence de ce mail et quelle est l'échéance à laquelle une réponse est souhaitée. Donc quand vous recevez ce mail, on commence par vous dire, un tel vous envoie ce mail et souhaite une réponse dans une heure, dans 24 heures, dans 8 jours, etc. Et ça c'est pas mal parce que ça force l'émetteur à réfléchir à la réalité de l'urgence qu'il attend et au récepteur à pouvoir différer la réponse.
Alors bien sûr, les auditeurs nous ont envoyé des solutions. Voilà, comment déconnecter en vacances. Voici plein de solutions. Je vous les lis, je découvre ça. C'est vrai, c'est assez malin. Donc, pour déconnecter, il faut déléguer les tâches en cours à quelqu'un. On est tranquille. Choisir un lieu sans connexion, c'est pas mal non plus. Une zone blanche. Alors comme ça, on est sûr d'être coupé du reste du monde. On pose le téléphone le matin, on le reprend pas avant le soir et toute la journée. On fait du sport, de nombreuses activités. Si on a deux portables, un pro, un perso, c'est facile. On débranche le pro. Et puis, alors, très important, rédiger un message d'absence sur sa messagerie web ou sur le répondeur du portable. Ne pas répondre aux appels. Si c'est vraiment urgent, il y aura un message sur le répondeur. Tous ces petits conseils qu'on a reçus là sur notre boîte mail, c'est très efficace. Patrick
ce sont ce que j'appelle des bonnes pratiques. Et c'est bien d'avoir ces bonnes pratiques. Et on aurait pu en rajouter en disant pensez à l'envoi de mails différés. C'est le petit clic qu'on oublie souvent. Attention à la réponse à tous et ne pas mettre tout le monde pour montrer qu'on fait de l'actisme. Ces pratiques-là, moi, je les vois dans les accords. Bien évidemment, je pense que simplement, il faut aller un peu au-delà de ces simples mesures. Je pense qu'il faut mesurer le flux d'emails, car vous savez qu'il y a des emailers compulsifs dans toutes les entreprises. Ce sont ces gens-là qui posent problème, souvent, les emailers compulsifs, surtout quand ils sont assez haut placés dans l'entreprise. Sachons réguler les flux.
Ça se soigne, l'emailer.
Alors écoutez, je suis peut-être pas le, compulsif. En tant qu'avocat, plus grand spécialiste pour répondre à la question, mais je sais qu'on peut identifier ces flux. Et après, les actions de sensibilisation par rapport à ces gens-là, oui. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est quand même l'employeur qui a une obligation de santé et de sécurité des salariés. Et si il est en contravention de cette obligation, il est responsable.
Parce qu'envoyer des emails de façon compulsive, c'est une sorte, c'est du harcèlement.
Mais ça peut déboucher sur du harcèlement moral, absolument. Et c'est donc, et l'employeur peut être responsable s'il n'a pas agi en prévention. Absolument.
Camille, à Paris, est avec nous écoute et veut participer à notre émission. Camille, bonsoir.
Oui, bonsoir. Mais ça tombe très bien que la conversation arrive sur les emailers compulsifs. Puisque, moi j'ai travaillé jusqu'à il y a quelques mois, enfin assez récemment, dans une grande entreprise du CAC 40. Et ma responsable était une personne qui travaillait énormément et qui dormait extrêmement peu. Et donc, en fait, elle se réveillait la nuit généralement entre 3 et 4 heures du matin. Et c'est à ce moment-là qu'elle envoyait sa salve d'email à son équipe. Généralement sur son smartphone ou via sa tablette, ce qui fait que l'écriture intuitive se mettait en place et que voilà la conséquence, c'est qu'on arrivait le matin au travail et on se recevait une salve d'emails incendiaires, incompréhensibles la plupart du temps. Mmh. Et donc voilà, donc c'était une source de stress permanent parce qu'en plus on se demandait ce qu'on allait recevoir, on se demandait quel était l'objet de la demande. Et voilà, donc vous parliez du fait que ça pouvait déboucher sur du harcèlement, en tout cas des formes de harcèlement. Je suis totalement d'accord.
Et comment avez-vous réagi face à cela, Camille?
J'ai démissionné. En fait, j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai démissionné. Et la deuxième, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle, j'en profite, je le dis, voilà, « La jeune cadre dynamique qui voulait conquérir le monde ». Et qui parle en fait de ces sujets, du harcèlement moral, de la qualité de vie au travail et du stress, de la souffrance que ça peut générer dans les équipes, chez les collaborateurs. Vous disiez au début que le stress était quelque chose qui ruisselait parfaitement, je vous le confirme. Je pense que cette personne était extrêmement stressée et le ruissellement se faisait notamment par ce biais-là. Voilà.
Et ces mails que vous receviez sans arrêt, ça continuait pendant vos vacances, par exemple?
Bien sûr, on en recevait pendant les vacances, mais on savait qu'en arrivant en retour de vacances, on avait la petite liste de courses. Et puis, si vous rentriez, par exemple, le 12 août, vous saviez que le 12 août à 10h30, elle allait vous passer un coup de téléphone pour savoir si vous étiez bien rentré, puis surtout si vous aviez vu la liste de choses à faire, quoi.
Jean Parlon, ce témoignage de Camille,
Bah, ce qui est assez effrayant, c'est qu'une croyance très populaire dans les entreprises, c'est que le temps, c'est de l'argent, ça on le savait déjà. Mais comme l'information, c'est de l'argent aussi, répondre rapidement, c'est du business. Et celui qui répond le plus rapidement à l'information, celui qui capte le plus rapidement l'information, c'est celui qui gagne. Ça, c'est une croyance assez populaire dans les entreprises. Et pour ça, pour lutter contre business is business, c'est-à-dire en gros, pendant que vous ne répondez pas, le voisin d'à côté lui répond, le concurrent lui répond, ça, c'est une croyance quand même très, très installée. Pour lutter contre ça, il y a une éducation à faire auprès des managers. Et puis, il y a ce travail à faire auprès des collectifs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage la responsabilité de la réponse et comment est-ce qu'on évite de la faire peser sur un seul et unique individu au risque, effectivement, de le rendre fou. Parce que je répète bien ce raisonnement qui est répondre rapidement parce que l'information, ça a de la valeur et donc la réactivité, c'est de l'argent, finalement. Répondre rapidement, c'est de l'argent. C'est un raisonnement qui rend fou.
Un courriel d'Agnès qui nous dit « Il est toujours possible de déconnecter et désactiver son compte mail professionnel de son smartphone pendant les vacances. Le seul problème, c'est le nombre de mails au retour. »
Oui, parce que... Oui, le problème peut être réglé par des bonnes pratiques, comme vous disiez, mais ça ne suffira pas parce qu'en réalité, ce qui est comme le symptôme de ce qui est de ces comportements-là, c'est à la fois quelquefois des gens qui sont abusifs, effectivement, qui ont des abus, qui peuvent être condamnés, certainement, mais en réalité, qui d'autre part ont mis en place un dispositif, une organisation, un style de management, et que l'occasion du numérique, quand on travaille avec des systèmes numériques, on est obligé de tout expliciter. C'est une contrainte un peu bizarre parce que dans les entreprises, si vous voulez que ça marche, il faut qu'on dise qui a droit de répondre, etc. Donc ça complique tout. Certes, ça complique tout, mais en même temps, ça a un avantage, c'est que ça oblige tout le monde à dire mais pourquoi est-ce qu'on a ce circuit, ce workflow, comme on dit, hein, ce flux de travail, etc. Oui. Donc là, c'est une bonne occasion pour le management de pouvoir dire bah, discutons de tout cela et sans en avoir l'air, j'allais dire quelquefois, de dire bah oui, mais cette responsable-là, en l'occurrence, dont on a vu le témoignage, eh bien ça colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va être obligé de réorganiser les choses à la lumière de ces symptômes que sont notre façon de fonctionner en matière d'information numérique.
Sur Twitter, Philippe nous a écrit, mais alors que devient la notion de temps de travail dans ce contexte ? Patrick Thiébard, avocat.
Oui, évidemment, le problème du temps de travail se pose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est évident que lorsque vous avez cette intrusion dans la vie privée, vous êtes sur des cas de harcèlement moral, ça me paraît complètement évident. Je rejoins ce que dit Dominique Boulier. Il y a effectivement un certain nombre de symptômes qui doivent être pris en compte. Quand vous avez des flux d'emails à toute heure du jour et de la nuit, ça peut traduire soit effectivement un stress du manager, soit ça peut traduire une problématique tout simplement de sous-effectif, mais tous ces éléments d'information doivent être traités, ça me paraît évident. Et là, vous avez bien un problème d'organisation du temps de travail qui se pose, d'une façon ou d'une autre.
Un appel qui nous vient d'Oslo, c'est Frédéric qui nous écoute. Bonsoir Frédéric. Frédéric,
bonsoir.
Vous êtes là, on vous entend peut-être pas très très bien, allez-y. Allez-y, Frédéric. Ouh là là, le son est pas bon. Il va falloir bouger un petit peu peut-être parce que là, ça ne passe pas bien, c'est un portable. Voilà, le fameux portable, le smartphone. Allez-y, Frédéric.
Oui,
ah, malheureusement, ça ne marche pas. C'est pas de votre faute. Voilà, le portable, quelquefois, l'endroit où on se trouve, les ondes se déplacent mal. Mais j'ai un résumé de votre question que j'ai reçue grâce au standardiste du téléphone sonne. Vous avez écrit « Je suis français, je travaille en Norvège. Ma manager norvégienne m'a réprimandé parce que j'avais mis mes coordonnées dans mon mail automatique lors de mon départ en vacances. » Voilà, ça c'est quand même un fonctionnement bien différent de ce qu'on peut trouver parfois chez nous. Sur ce point, Patrick Thiébard ?
Oui, c'est une éducation que l'on doit faire effectivement chez nous. Et ce que disait tout à l'heure Jean Pralon, c'est associer la soi-disant performance du manager au nombre d'emails qu'il envoie. Ce sont des idées qu'il faut effectivement éradiquer. Le bon communicant, c'est pas forcément celui qui envoie plein de mails. Ouais. Et c'est vraiment des idées sur lesquelles il faut lutter. Il y a cette obligation de formation. Mmh. Obligatoire.
Frédéric, à Oslo, vous êtes toujours là ? Ça passe mieux, la liaison ?
Je suis là.
Alors, j'ai lu le résumé de votre question. Donc, vous avez été réprimandé par votre manager norvégienne parce que vous aviez laissé vos coordonnées dans votre mail automatique avant de partir en vacances. Donc, on estime en Norvège que les vacances, il faut être tranquille et il ne faut pas être dérangé.
Exactement ça. Oui, je suis dans une société norvégienne et c'est important de mettre en place un système de remplaçant, de backup et de l'indiquer dans sa messagerie automatique. Évidemment, de mettre au courant ce remplaçant de tous les sujets qui sont susceptibles de tomber en mail pour l'opérationnel sur les hot topics, les sujets chauds du moment à traiter en notre absence.
Voilà.
Mais... et c'est vraiment respecté à la lettre. Hein. Voilà, c'est un peu ça que je voulais sur lequel je voulais.
Et donc, surtout, vous n'avez pas à indiquer vos coordonnées avant de partir en vacances. Le moment des vacances, c'est sacré. Et c'est la personne qui vous remplace, qui a reçu vos recommandations, qui, elle, peut être dérangée. Frédéric, merci beaucoup de nous avoir appelés. La ligne était moyenne, mais c'est sympathique de vous savoir à l'écoute là-bas en Norvège. Valentine à Paris. Bonsoir, Valentine.
Bonsoir.
C'est à vous. Allez-y, soyez pas trop long, parce que là, on approche quand même de la fin de l'émission.
D'accord. Merci de prendre ma question. Je m'appelle Valentine, je suis cadre commercial à Paris. J'ai 26 ans et je travaille dans la tech, les nouvelles technologies. Et c'est parfois, j'imagine peut-être un milieu qui est assez différent des milieux un peu plus traditionnels et des grandes entreprises bien implantées. Et donc on a une culture qui est peut-être un peu différente où la frontière entre le temps de travail et le temps personnel est plus fine. Et par exemple, sur mon temps de travail, je peux prendre des rendez-vous médicaux. Si je veux aller faire un musée dans lequel il y a beaucoup moins de fil en pleine journée, si je prends une heure et demie, c'est pas forcément grave. Ou par exemple, en ce moment, on regarde le foot quand il y a un match de l'équipe de France. Et donc, par exemple, moi, dans ce contexte-là, je vais forcément avoir plus d'indulgence et travailler une ou deux heures un week-end parce qu'on a une présentation importante la semaine d'après. Pour moi, ce ne sera pas forcément grave. Alors, je voulais demander à vos invités experts savoir ce qu'ils en pensaient et s'il y avait peut-être des conséquences que moi, je ne voyais pas. Qui pourraient, si eux avaient une vision différente des choses de ce dont je parle.
Valentine, très bien, on va vous répondre. Restez en ligne, j'ai une question pour vous après les réponses de nos invités. Dominique Bouillet.
Bien, il est clair que dans ces milieux, les milieux de développement numérique par exemple, on n'a plus du tout les mêmes principes de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Non seulement ça, mais en plus on a des rythmes de travail très différents. Moi je connais beaucoup de développeurs, effectivement, qui travaillent la nuit beaucoup, et qui travaillent y compris la nuit parce qu'ils doivent se coordonner avec d'autres collègues qui développent dans d'autres continents, et sans parler de ceux qui sont aussi auto-entrepreneurs, qui travaillent en permanence ou qui sont freelance d'une façon ou d'une autre. Donc on a tout un ensemble de statuts dans ce secteur-là en particulier, de statuts qui n'ont plus grand-chose à voir avec les règles des entreprises qu'on pouvait imaginer avant. Donc cette population-là est particulièrement difficile à réguler, mais elle est du coup particulièrement sensible à ce type de dérapage et à cette pression qui est mise à tout le temps, parce que c'est une question de survie pour eux.
Patrick Thiébard.
Très rapidement, oui. On n'a pas le droit de fractionner en principe son temps de repos. C'est 11 heures de repos consécutives, donc je comprends, mais la loi est extrêmement contraignante sur ce type de sujet, malheureusement.
Valentine, un mot en vacances. Comment ça se passe avec votre smartphone, votre portable? Vous réussissez à déconnecter, à couper tout contact pour être tranquille?
Moi, je suis cadre commercial, donc forcément, quand il y a des emails qui sont très importants pour moi, que je veux surtout pas rater si on a une affaire qui fonctionne, par exemple. Mais donc, je regarde souvent les titres des emails. Ouais. Et quand ça m'intéresse, je les ouvre. Mais je sais qu'il y a certains sujets où je vais simplement envoyer à un collègue et dire « Est-ce que tu peux t'occuper de ça ?» Mais je vais pas vraiment travailler si je suis sur la plage.
Merci Valentine. Jean Pallon, le mot de la fin.
Oui, juste pour revenir là-dessus, c'est la preuve que c'est à la fois un besoin et un statut. On a besoin de répondre, mais c'est aussi un statut dans la société de dire qu'on est surbooké et qu'on a besoin de répondre. Et que donc la réponse à ces problèmes-là ne peut pas être individuelle. C'est aussi une question de l'entreprise et des collectifs.
Merci à nos invités Patrick Thiébard, Dominique Bouillet et Jean Pralon. C'était le Téléphone Sonne. Demain soir, Téléphone Sonne spécial, 40 minutes avant le début de la demi-finale France-Belgique. Les joueurs, les styles, les stratégies de jeu, nos liens si particuliers avec nos voisins belges. On attend vos questions sur ce match, cette Coupe du Monde en Russie. Il y aura avec nous Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, nos Belges préférés, et puis Jacques Vendroux, Fabrice Abgral, Philippe Collin, nos envoyés spéciaux en Russie. Et puis, alors juste après, par Jupifoot. Ce sera de 20h à 23h, soirée spéciale avec Charline, Alex, Guillaume Meurice pour suivre en direct cette soirée France-Belgique sur France Inter.